De 50 000 personnes seulement sont revenues sur le territoire. C'était vraiment l'envahisseur à l'époque, celui qui était au contrôle, qui renvoyait des gens dans leur pays. Et donc, il les a renvoyés avec sa bénédiction, avec une provision légale pour qu'ils puissent reconstruire la ville, les murs de Jérusalem, le temple, tout ça. Et lorsqu'on arrive au livre de Malachie, on est probablement environ 80 ans plus tard, après le début du retour. Donc, mur reconstruit, temple reconstruit, on a recommencé, les prêtres ont recommencé à offrir des sacrifices. Et là, c'est important pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël offrait des sacrifices d'animaux. Et quelqu'un qui n'est pas familier avec ça, lit ça pour la première fois, ça peut sembler extrêmement barbare, étrange, cette pratique-là, d'offrir des animaux en sacrifice. Nous, on ne fait pas ça, on les met dans nos assiettes puis on les mange. Mais un petit contexte pour vous expliquer quand même. Tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament avec les sacrifices d'animaux annonçait, préfigurait un sacrifice parfait qui viendrait plus tard. C'est-à-dire Jésus-Christ, d'accord? Là, on est dans l'Ancien Testament, mais il va venir quelques 400 ans après Malachie, Jésus va venir, va exercer son ministère, va être livré aux Romains, va être pendu au bois, va être crucifié. Et c'est tous les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient ce sacrifice-là. C'était assez caché, c'était assez mystérieux, mais c'était là en provision dans les prophéties de l'Ancien Testament. Et donc, ces sacrifices-là annonçaient un sacrifice parfait qui rendrait possible pour des gens imparfaits, pécheurs comme vous et moi, de se réconcilier avec un Dieu saint. D'accord? Et donc, le peuple d'Israël avait été un peuple choisi par Dieu pour entrer dans une alliance avec Dieu. Et un groupe, une des 12 tribus, la tribu de Lévi, avait été choisie pour exercer ces sacrifices-là et conduire le peuple donc à se réconcilier avec Dieu lorsque le peuple péchait. Et donc, régulièrement, des gens pouvaient venir au temple, ils achetaient ou ils apportaient un animal qui avait été choisi, qui devait être vraiment un animal de qualité, venaient l'offrir, le prêtre allait le sacrifier selon le type de sacrifice qui était fait. On pouvait à ce moment-là brûler une partie de l'animal sur l'autel qui était là en offrande à Dieu. L'animal symboliquement recevait nos fautes. Une partie de la bête servait à nourrir le prêtre, sa famille, les prêtres et leur famille. Et une partie était gardée aussi pour la famille qui l'offrait. Puis on faisait un festin d'action de grâce, de remerciement à Dieu. On faisait une fête à ce moment-là. D'accord? Et c'est de ça dont il va être question ici parce que dans la relation entre Dieu et son peuple à travers Malachie, je l'ai dit, le peuple s'est détourné un peu de Dieu, puis Dieu va adresser différents péchés dans la vie du peuple. Dans le passage de ce matin, il s'adresse spécifiquement aux sacrificateurs, aux descendants de Lévi, à la tribu de Lévi, et dans ce qu'eux ont pu manquer dans leur relation avec Dieu, et ils ont un rôle vraiment unique dans toute la nation. Alors, soyez attentifs au passage ce matin, on va l'écouter attentivement, puis on va plonger ensemble dans ce passage-là. Allons ensemble dans un petit mot de prière rapidement. Père éternel, Père, il y a un bon dans l'histoire pour nous, il y a un bon culturel, et Seigneur, on ne veut pas perdre la beauté du message que tu as là pour nous aujourd'hui, en 2016. Alors je te prie, Seigneur, de nous aider à être attentifs, à être à l'écoute, et non seulement avec notre intelligence, mais avec notre cœur aussi, Seigneur, pour écouter à travers ce que tu as dit à ces sacrificateurs, ce que tu as dit à Israël, qu'est-ce que tu veux nous dire à nous personnellement, chacun d'entre nous ici ce matin, Seigneur. Nous croyons que tu es présent par ton esprit, nous croyons que tu es présent dans nos cœurs, Seigneur, et on te prie de nous parler, de venir nous rencontrer ce matin, afin que ton nom, Seigneur, ne soit pas méprisé dans nos vies, dans cette Église, dans nos familles, Seigneur, mais que ton nom soit glorifié, qu'il soit élevé. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Malachie, du chapitre 1, verset 6, au chapitre 2, verset 9. Donc, Malachie, chapitre 1, verset 6, au chapitre 2, verset 9. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom? » Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous profané? » C'est en disant « La table de l'Éternel est méprisable. » Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant « La table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. » Vous dites « Quelle fatigue !» Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue en sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne les avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui est une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il en est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes que vous interprétez la loi. Amen.
Merci, Luc. Cette semaine, j'étais en train d'étudier le passage, puis je lisais les journaux, je lisais la presse, regardais des choses qui, entre autres des interventions que le pape fait au cours des derniers mois, tout ça, puis en lisant Malachi, puis en étudiant Malachi, puis en voyant ce que les sacrificateurs avaient comme rôle, je réalisais à quel point c'est vraiment un grand privilège qui nous est offert de connaître Dieu. C'est un grand privilège de pouvoir ouvrir la Bible puis comprendre quelque chose là-dedans, puis comprendre qui est Dieu, comment est-ce qu'il s'est fait connaître, pouvoir naviguer dans l'Ancien Testament, puis comprendre la sainteté de Dieu lorsque je suis en train d'étudier l'Ancien Testament. Puis parce qu'on vit à une époque où il y a beaucoup de confusion, puis des notions comme Dieu, qui est l'homme, pourquoi est-ce qu'il est sur la terre, à quoi notre vie sert, le bien, le mal, la sainteté. C'est des choses qui sont confuses dans notre société. Les points de repère, chacun se les invente, chacun le définit pour lui-même. Puis en étudiant Malachie, puis en suivant les médias, puis en regardant ce qui se passe dans le monde, en écoutant, en parlant avec les gens autour de moi, je réalisais quel privilège. Quel privilège incroyable de pouvoir comprendre la vie, comprendre Dieu, comprendre les Écritures, pouvoir m'asseoir avec mes enfants, puis les guider. Les guider pour comprendre le monde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive avec les religions, avec toutes sortes de questionnements, pouvoir avoir une conversation avec des collègues au travail, puis prendre un moment de la souffrance qui est partagée ou un commentaire qui est fait sur des choses qui se passent, des drames qui arrivent. J'écoutais la semaine dernière une émission sur le web, puis faisant référence au drame de la famille Lapierre. Jean Lapierre qui est décédé avec les frères et sœurs, tout ça dans l'avion. Un chroniqueur qui a dit, un animateur qui a dit, c'est comme de l'acharnement. Hein? À un moment donné, c'est trop. T'sais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Ils peuvent rien faire avec ça. Mais c'est un privilège incroyable pour nous de connaître Dieu, de connaître sa parole, de savoir expliquer la souffrance, le mal dans le monde. Trouver le sens que ça a et qu'est-ce que Dieu est en train de préparer à travers ça. C'est un énorme privilège. Et dans le passage de ce matin, on s'intéresse à une tribu, un groupe à l'intérieur du peuple d'Israël qui était privilégié parmi tout le peuple d'Israël et qui avait un rôle particulier de guide. Ils étaient là pour guider le peuple de Dieu à comprendre les choses, à connaître Dieu, à se rapprocher de Dieu. Et au moment où on les retrouve, ce groupe-là, privilégié, a méprisé ce privilège-là, a méprisé cette grâce que Dieu lui avait faite et n'est plus en train de jouer ce rôle-là pour le peuple. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que Dieu est grand, Dieu est merveilleux et tout-puissant et il nous invite à entrer dans une alliance de vie et de paix avec lui. Et il a fait de nous des ambassadeurs de cette alliance de vie et de paix. Si j'ai cru en Jésus-Christ, il a fait de moi un ambassadeur. Mais avant de regarder au prêtre, regardons un peu au Dieu qui est là. C'est super important. Regardez avec moi le verset 6. Parce qu'il faut comprendre, hein, le ton est dur. Écoutez, Dieu leur dit, je vais vous lancer. Il y a une tonne hein, qui dit, ma vie, c'est de la... Ben, c'est ça. Je vais vous lancer ça en pleine face. Le texte est très, 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 très dur. Pourquoi Dieu est fâché comme ça? Pourquoi Dieu est en colère comme ça? C'est un Dieu de colère que j'ai ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez avec moi le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Peut-être que vous vous rappellerez, la semaine dernière, Dieu a rappelé à Israël que Dieu avait choisi Jacob, il n'avait pas choisi Ésaü, et il a fait de Jacob et de sa descendance une nation, un peuple, eux qui n'étaient pas un peuple. Et Dieu a fait d'eux un peuple. Dieu les a conduits hors d'Égypte, il a été un père pour eux. Il les a protégés, il les a conduits dans la terre promise. Il a été un maître pour un souverain qui les amène sous sa protection. Un petit peu plus loin dans le passage, il va dire au verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. C'est un des grands défauts du cœur humain de tomber dans la familiarité. On épouse une femme, on l'aime, on l'honore, on la trouve waouh, génial. On épouse un homme, on le trouve merveilleux, c'est extraordinaire. Puis s'installe la familiarité. Puis avec la familiarité, bien, on se rend compte à un certain moment donné qu'on prend plus soin, on a plus d'égard envers les gens à l'extérieur de notre maison que les gens dans notre maison. C'est pas vrai? C'est un des grands défauts du cœur humain de s'installer dans cette familiarité. On fait ça avec Dieu aussi. Et Israël s'est installé de manière très familière avec Dieu maintenant. Ce Dieu grand, terrible, majestueux, merveilleux, qui était devenu père d'une nation, protecteur d'une nation, lui qui en fait est le créateur des cieux et de la terre, qui a créé l'univers, était devenu à leurs yeux un petit Dieu de service, un petit pet God qu'on a sur notre tablette, à qui on fait quelques invocations, quelques incantations pour qu'il nous accorde ses faveurs. Et Dieu est fâché parce qu'il dit, « Ne suis-je pas votre Père? Est-ce que vous ne devriez pas m'honorer? Ne suis-je pas votre souverain, votre maître? Est-ce que vous ne devriez pas m'honorer? Moi qui suis le Dieu des armées, le Dieu des armées célestes, le Dieu de l'univers, je vous ai choisi. Je n'ai pas choisi Ésaü, je vous ai choisi. Et j'ai fait de vous un peuple. » Et Dieu avait choisi, dans tout le peuple d'Israël, une tribu, la tribu de Lévi. Il avait dit, « Vous, vous allez être mes représentants auprès du peuple. Vous allez être ceux qui vont ouvrir la voie, qui vont s'assurer que la relation entre le peuple et moi demeure saine. Lorsque le peuple va pécher, vous allez vous interposer pour venir demander le pardon pour le peuple. Lorsque le peuple va s'égarer, vous allez être des guides pour eux. Vous allez avoir la science sur vos lèvres, la connaissance de Dieu. » Regardez bien ce qu'il fait. Et là, je vais à la fin du passage, d'accord? Je vais vers la fin, parce que les reproches que Dieu adresse aux sacrificateurs au début de cette section-là, pour les comprendre, il faut retourner au début, à l'alliance que Dieu avait traitée avec Lévi. Au verset 2:5, Malachie 2:5, « Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, et il eut pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. » Non pas comme d'une peur terrible, mais d'un respect incroyable. Parce que Dieu avait choisi parmi les 12 tribus, une tribu qui serait la plus près de Dieu, qui conduirait le service à Dieu dans le tabernacle, puis plus tard dans le temple, qui viendrait présenter les sacrifices, qui passerait constamment son temps à étudier la loi de Dieu, à étudier la parole de Dieu, afin d'être un guide. Regardez bien quel était leur rôle. Un petit peu plus loin, au verset 6 et 7, Malachie 2, 6 et 7. « La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. » Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, la connaissance de Dieu, la sagesse. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Leur rôle, c'était ça. On devait pouvoir venir vers les sacrificateurs puis leur dire, « Aide-moi à comprendre ce que Dieu est en train de faire ici. » Aide-moi à comprendre le malheur qui frappe ma vie. Aide-moi à comprendre quel est le bien, quel est le mal. Aide-moi à avoir du discernement pour marcher avec Dieu. C'était leur rôle. La science devait être sur leurs lèvres. Ils devaient être des guides pour leurs frères. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Parce que Dieu les avait choisis parmi tous les autres pour aider le peuple à se réconcilier avec Dieu lorsque c'était nécessaire. Pour aider le peuple à avoir du discernement, à voir clair. Pour aider le peuple à revenir vers Dieu. C'est un privilège absolument extraordinaire qui était offert à Lévi et à sa descendance. Si Israël devait briller parmi toutes les nations, au milieu d'Israël, béni parmi les bénis, élu parmi les élus, il y avait la descendance de Lévi, une tribu parmi les 12. Qui avaient ce rôle-là privilégié. Ils étaient consacrés à connaître Dieu intimement et à faire connaître Dieu sans cesse au peuple d'Israël. Un privilège absolument extraordinaire. Imagine pour ta maison, quand ton travail, c'est d'étudier la parole de Dieu. Tout un privilège, hein? Toute une grâce, toute une bénédiction. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la descendance de Lévi lorsqu'on arrive dans le livre de Malachie? Ceux qui devaient être les guides. Et c'est pour ça, je crois, que Dieu commence ses reproches par les sacrificateurs. D'accord? Il va y avoir une série de reproches dans les prochains chapitres. Dieu va mettre en lumière, on l'a dit, on est dans une période économique super difficile. Environ 50 000 personnes sont revenues des déportations. Ils sont là pour reconstruire Israël. Ils reviennent dans un territoire qui a été occupé par d'autres personnes. officiellement, ils ont la bénédiction, ils ont des lettres qui les accompagnent, mais je veux dire, beaucoup de choses reposent sur leurs épaules. Économiquement, c'est difficile. Le temple qui a été reconstruit est minuscule, n'a pas la gloire du temple que les vieux, les anciens ont connu dans le passé. Et donc, c'est pas aussi majestueux. Les choses sont difficiles et la tentation est très grande de traiter des alliances avec les peuples environnants puis de faire toutes sortes de compromis. Et à travers tout ça, ceux qui devaient aider le peuple à revenir vers Dieu, les sacrificateurs, eux aussi ont péché en doutant de Dieu, en s'éloignant de Dieu, en remettant même en question la parole de Dieu. Regardez bien ce que Dieu dit. Dieu est en train de... C'est comme si Dieu tient les deux discours à la fois. Il déclare ce qu'il reproche, puis il dit « Mais vous me direz. » Parce qu'il sait très bien c'est quoi qu'on va lui dire. Puis ensuite de ça, il répond encore. Regardez au verset 6, Malachie 1, 6. Je vais vers la fin du verset. « Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? On est des sacrificateurs. On porte ton nom. Non seulement on est juifs, on est descendants de Jacob, mais on est fils de Lévi. Puis on porte fièrement ton nom, sans aucune gêne. Puis Dieu leur dit, non, vous méprisez mon nom. Versets 7 et 8. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Ça peut nous sembler étrange, comme si les bêtes aveugles sont inaptes. Mais je l'ai dit tout à l'heure, les sacrifices dans l'Ancien Testament annonçaient un sacrifice parfait qui était à venir. Et donc, c'était la responsabilité du peuple d'offrir leur plus belle bête pour représenter ce sacrifice parfait qui allait venir. Ce sacrifice parfait, ça allait être Dieu le Fils qui vient sur la terre et qui va s'offrir lui-même parfait, sans faute, sans péché, en sacrifice. Et donc, le choix d'aller dans mon troupeau puis de dire, ben, écoute, celle-là, je pense que si je la revends, je pourrais faire plus d'argent. Fait qu'on va la garder pour la revendre, puis celle-là, on va l'amener pour le temple. C'est comme si Dieu avait fait ça pour notre salut à nous. J'aurais pu donner mon fils, mais je vais t'envoyer les restants pour ton salut. Fait que Dieu leur dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, au verset 8, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc au gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Il dit, comment, arrête de me niaiser. Va l'offrir à ton gouverneur pour voir s'il va être honoré. C'est un homme. Puis il va avoir assez de discernement pour dire, tu te moques de moi maintenant, ça. Mais c'est bon pour le temple, c'est bon pour Dieu, par exemple. Et donc, les sacrificateurs, dans leur service pour Dieu, étaient tombés dans un laisser-aller. Il n'y avait plus ce zèle dans leur cœur d'offrir le meilleur d'eux-mêmes pour le service de Dieu. Ils n'instruisaient plus le peuple à offrir le meilleur pour le service de Dieu. Ils ne conduisaient plus le peuple à dire, « Venez honorer Dieu avec le meilleur de vous-même. » Ah, puis même leur service était rendu un fardeau. Regardez ce qu'ils disent un petit peu plus loin, au verset 13. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez. Ça m'a même rendu compliqué. C'était un paquet de rituels, c'était du travail. C'était fatigant d'aller puncher pour servir le Seigneur. Tu sais, je vais aller faire mon chiffre, puis je pense juste à ma fin de semaine quand je vais pouvoir me reposer de mon corps de travail. Puis le service pour Dieu, c'était rendu ça. Instruire le peuple dans la vérité. De toute façon, ils ne veulent rien savoir, puis ça ne change rien. Puis il y avait un laisser-aller incroyable qui était là. Et donc, Dieu entre en conflit avec eux parce qu'il leur dit, « Comment ce peuple-là va marcher dans la vérité si vous, qui avez été choisis, vous avez perdu votre zèle, votre service, vous le faites avec dédain, avec paresse. » Vous êtes plus occupé à réussir votre business puis vos transactions qu'à servir Dieu. Vous êtes plus préoccupé à vous installer sur la terre un petit royaume plutôt que de chercher la gloire du royaume de Dieu. Vous qui avez été choisis parmi le peuple d'Israël, vous qui êtes censés être des guides, des lumières pour vos frères, vous avez perdu votre zèle. Vous qui avez connu Dieu comme personne en Israël, vous avez perdu votre zèle pour Dieu. Et Dieu entre en dispute avec eux parce qu'il dit « Vous méprisez mon service ». Cette semaine, pendant que j'étais en train de me préparer, je suis tombé sur une citation qu'un ami a publiée sur Facebook. Une citation que j'avais lue déjà de Francis Schaeffer. C'est un homme, quand vous pouvez lire du Francis Schaeffer, sautez là-dessus. Il y a des bonnes, même du bon matériel traduit en français. C'est un homme qui comprenait l'Église et qui comprenait la société. Ça a été un de nos contemporains. Je vous lis une longue citation. Ça va être technique pour quelques-uns, mais essayez de saisir ce qu'il est en train d'adresser, la problématique qu'il est en train d'adresser. Parce que notre tentation, c'est toujours de regarder le monde autour de nous puis de s'en prendre au monde en disant « ça va tellement mal, ils ne comprennent rien, on n'a plus notre place là-dedans, c'est un monde perdu ». Voici ce que Schaeffer dit. « Le problème central de notre époque n'est pas le libéralisme ou le modernisme. » Il a écrit ça probablement dans les années mi-70, d'accord? « Ni le vieux catholicisme romain ou le nouveau catholicisme romain, ni la menace du communisme, ni même la menace du rationalisme. » Et le consensus monolithique qui nous entoure, puis mon ami d'ajouter, et je voudrais ajouter aujourd'hui, ni le postmodernisme ou le consumérisme matérialiste ou le sensualisme viscéral. Tout cela est dangereux, mais pas la principale menace. Le vrai problème est le suivant. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, individuellement ou collectivement, tendant à faire le travail du Seigneur par la chair plutôt que par l'esprit. Le problème central est toujours au milieu du peuple de Dieu et non pas dans les circonstances qui l'entourent. Le peuple avait commencé à croire que leur problème, c'est les circonstances. Un contexte économique difficile, un territoire difficile à reprendre, un témoignage difficile à rétablir, la difficulté à installer leur famille. Et les sacrificateurs étaient les premiers à avoir perdu leur zèle, à mépriser le service de Dieu. Et en faisant cela, ils avaient arrêté d'être les guides qu'ils devaient être pour le peuple que Dieu avait mis sous leur supervision. Et ce qui se passe, c'est que Dieu ne prend plus plaisir à leur service, parce qu'il fait avec paresse sans y mettre un cœur vrai entier. Dieu rejette leurs offrandes et leurs services. Il méprise leurs prières et dit « Lequel d'entre vous aura le courage de fermer la porte du temple, qu'on arrête le sacrifice? De toute façon, ça me pue au nez, votre service. » Fermez le temple, arrêtez ça. C'est une offense chaque fois que vous allez offrir vos sacrifices. Vos prières puent. Tout votre mépris. Parce qu'ils ne viennent pas d'un cœur sincère, d'un cœur entier. Je lui ai dit que ça allait être difficile, Malachi. Parce que ça nous remet en question, nous. Toi et moi, on connaît Dieu. Vous attendez quoi? Que les Québécois qui ne connaissent pas la Bible marchent dans la vérité puis qu'ils construisent une société parfaite? C'est toi et moi qui connaissons Dieu. J'ai à cœur ma famille, j'ai à cœur mes enfants, j'ai à cœur mes proches. J'ai à cœur cette belle ville de Longueuil. La question qui se pose, c'est est-ce que mon cœur est appliqué à connaître Dieu personnellement, à faire connaître Dieu dans ma famille, dans ma maison, à être un guide, à faire connaître Dieu aux gens autour de moi dans des conversations? Ou est-ce que moi-même, le premier, j'ai perdu mon zèle pour Dieu? Est-ce que tu as perdu ton zèle, cette passion? Ce premier amour dont Jésus parle dans l'Apocalypse, est-ce que tu l'as perdu? Qui va être là pour les guider? Qui va être là pour les conduire? Je l'ai mentionné déjà la semaine dernière, puis on va le voir à répétition à travers Malachi. J'arrive à la fin du livre de Malachi, puis j'ai pas de remède, j'ai pas de solution. Ça va terminer avec deux versets qui pointent vers un petit espoir à quelque part. Mais le livre de Malachie se termine, puis j'ai pas de solution, j'ai pas de remède. Juste une dispute entre Dieu et son peuple. Sans véritable espoir, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a un drôle de verset au chapitre 1 de Malachie qui est très étrange, c'est le verset 11. Vraiment bizarre ce verset-là, il a fait couler beaucoup d'encre. Allez le voir avec moi, il faut que vous le lisiez, d'accord? Il faut que vous le voyez. Dieu est en train de reprocher au sacrificateur de pécher, de mépriser son service. Puis là, Dieu dit une drôle de phrase. On est dans l'Ancien Testament, d'accord? Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. C'est vraiment bizarre, ce verset-là. On est dans l'Ancien Testament. Il y a un peuple qui a été choisi, c'est le peuple d'Israël. De quoi Dieu est en train de parler ici? Puis Dieu s'en sort comme d'un argument. Il dit, vous méprisez, vous les sacrificateurs, vous méprisez mon service. Mais partout sur la terre, mon nom est élevé. Bon, du soleil couchant, si on peut revenir au verset, s'il vous plaît. Du soleil couchant, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, ça peut être pris dans deux sens. Ça peut vouloir dire deux choses, les deux sont possibles. Soit qu'on est en train de couvrir le temps, du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire, ou soit qu'on est en train de couvrir l'espace, d'un bout à l'autre de la terre, d'une extrémité à l'autre, d'accord? Du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Puis là, il parle au présent, puis il dit, « Mon nom est grand parmi les nations. » Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Là, je vous dis, ça fait couler de l'encre. Les pères de l'Église dans les années 200-300, Clément d'Alexandrie commence à réfléchir et à dire, mais de quoi il est en train de parler ici? Il y a différentes interprétations qui ont été trouvées pour essayer de comprendre ce verset-là mystérieux qui est là. S'il avait été placé dans le Nouveau Testament, ça aurait été plus simple. Et dans l'Ancien Testament. S'il avait été placé avant que Dieu donne la loi à Israël, où on rencontre des Melchisédek puis des gens à l'extérieur de la descendance d'Abraham qui sont en train d'adorer Dieu, ça aurait été plus simple à comprendre. Donc, certains ont émis l'hypothèse que Dieu serait en train de dire ici que Dieu reconnaît l'adoration de tous les peuples, quels qu'ils soient. Partout sur la terre, on adore Dieu. Et certains, souvent aujourd'hui, c'est ce que vous allez entendre par des théologiens libéraux, ils vont dire, ah, tu vois, Dieu, dans le fond, agrée n'importe quelle adoration. Du moment que tu es en train d'adorer un Dieu quelconque, à quelque part, Dieu est en train de dire, waouh, c'est super. Est-ce que c'est possible que ce soit ça dont Dieu est en train de parler ici? Il y a pas mal de difficultés avec ça. Juste dans le verset ici, « En tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. » Pas n'importe quel nom. Le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu dans la Bible, c'est quelque chose, d'accord? Tu te trompes pas en Baal ou Mammon, puis Yahvé. Tu mélanges pas ces noms-là. Mais en l'honneur de mon nom. Intéressant, hein? Puis on brûle de l'encens. On rend des honneurs, car grand est mon nom parmi les nations. S'il y a de quoi à cette époque-là où Dieu est en dispute avec son peuple, Dieu est plutôt en train de dire, mon nom est méprisé parmi les nations à cause de vous. Parce qu'on dit, qui est ce Dieu qui est censé être le protecteur d'Israël? Regarde comme c'est un petit peuple. Donc certains ont émis l'hypothèse que ce serait finalement comme si tout les adorations à n'importe quel dieu fonctionneraient, ça ne marche pas dans Malachie. Ce n'est pas possible que ce soit ça. Ça contrevient à tout ce qui est dans Malachie, puis à tout ce qui est écrit dans les Écritures. L'autre possibilité qui a été émise, c'est de dire, bon ben, peut-être qu'il est en train de parler des non-juifs qui ont cru dans le Dieu d'Israël. On va appeler ça des prosélytes, d'accord? De tout temps, il y en a eu un peu, et qui un peu partout sur la terre, peut-être, seraient en train d'adorer Dieu. Mais encore une fois, à cette époque-là, on parle de quelque chose d'infiniment marginal. Ça serait gros de dire, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, parmi toutes les nations, mon nom est adoré. Et donc, le plus probable, c'est ma compréhension du passage, Dieu est en train de parler à la fois dans un sens, puis là, je vais utiliser un terme de théologie. Moi, je dis que c'est un verset comme eschatologique. Pas juste pour la fin des temps, mais un peu à travers tous les temps. C'est vrai qu'avant qu'Israël soit constitué, il y avait des gens qui adoraient Yahvé. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a eu des sympathisants qui se sont intéressés au Dieu d'Israël et qui ont cru. Mais véritablement, ce verset-là s'accomplit au moment de la venue de Jésus-Christ. Véritablement, ce verset-là s'accomplit au moment de la venue de Jésus-Christ. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, mieux que quiconque, à travers le livre des Actes, c'est un des thèmes du livre des Actes, Dieu est encore en dispute avec Israël parce qu'il dit « Enfin, je vous ai envoyé mon Messie. Enfin, je vous ai envoyé mon Sauveur. Et vous l'avez rejeté. Je vais l'envoyer maintenant, je vais envoyer ce message-là vers les nations. Et des nations, des gens de toutes nations vont croire en mon nom, vont offrir des sacrifices de bonne odeur à Dieu. » Et donc, je crois que quelque chose qui est infiniment mystérieux, mais en même temps tellement difficile à comprendre, Dieu est en train d'annoncer ici que cette tension-là, on termine le livre de Malachie, puis ça va mal. Cette tension-là va se résoudre un jour, quelques 400 ans plus tard, lorsque Jésus-Christ va venir. Et ce qu'on trouve dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, effectivement, c'est que des gens de toutes les nations de la terre vont glorifier Dieu, vont adorer Dieu pour l'éternité. Pour que ça se produise, il va falloir que quelques 400 ans plus tard, un descendant de Lévi, un autre sacrificateur vienne. Un sacrificateur parfait, celui-là. Et c'est Jésus-Christ. Dans la lettre aux Hébreux, je vais vous lire quelques versets. On lit au chapitre 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. On parle de Jésus ici. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Ça détonne avec Malachie. Fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Lorsqu'on étudie le Nouveau Testament, on en vient à comprendre que si les sacrifices dans l'Ancien Testament annonçaient un sacrifice parfait, les prêtres et les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, annonçaient un souverain sacrificateur parfait, fidèle dans son service à Dieu. On lit encore dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, versets 1 à 4. « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. » Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Voyez-vous, les sacrificateurs qui étaient ici étaient pécheurs aussi. Ils étaient imparfaits. Ceux de Malachie, ils étaient imparfaits. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé Dieu comme le fut Aaron. Et sa descendance. Mais est venu un jour un souverain sacrificateur qui ne viendrait pas offrir un sacrifice pour ses propres péchés, mais seulement pour ceux de ses frères, ceux qui croiraient en lui. Hébreux 7, 26-27, « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, parlant de Jésus, saint, innocent, sans tache, sans tâche comme le sacrifice, mais sans tâche dans son propre cœur, parce qu'il deviendrait lui-même le sacrifice, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. » Lorsque je lis Malachie, puis que je suis attentif aux reproches que Dieu adresse aux sacrificateurs, pour être bien franc avec vous, je dois me les offrir à moi-même, ces reproches-là. Je dois les prendre pour moi-même. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je ne voulais pas vous épargner de vous remettre en question sur votre zèle, parce qu'on doit prendre ces reproches-là pour nous-mêmes. Nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui sommes censés être une lumière, un sel dans une culture, dans un monde qui n'a pas cette saveur-là, qui ne connaît pas Dieu. On est censé être des guides pour les gens qui nous entourent, pour nos enfants, pour nos familles. Et je dois prendre ce reproche-là, je dois prendre ce blâme-là pour moi-même. Je ne dois pas m'en épargner. Mais en même temps, je dois reconnaître que de ma propre nature, je suis pareil comme les sacrificateurs. Je suis pécheur. Je suis pécheur et j'ai beau connaître Dieu, je demeure pécheur. Et régulièrement, je dois aller demander pardon à Dieu pour mes péchés. Tu dois le faire régulièrement. Tu es confondu par ta propre faiblesse. Toi qui es censé être un guide pour tes frères, tu le sais toi-même que tu es pécheur. Alors voyez-vous, cette dispute-là entre Dieu et son peuple dans le livre de Malachie allait se résoudre seulement 400 ans plus tard, lorsqu'un souverain sacrificateur, un sacrificateur viendrait pur et sans tâche, qui ne viendrait pas offrir un sacrifice pour ses propres péchés, mais pour ceux de ses frères. Pur et sans tâche, qui s'offrirait lui-même en sacrifice. Non pas comme une bête chétive, malade, indigne d'être offerte en sacrifice, mais pur, sans tâche lui-même, un sacrifice parfait pour nos péchés. Pour nos péchés. Si la grâce s'arrêtait là, ça serait déjà absolument extraordinaire. Si Dieu nous disait « Je vous ai pardonné », ça serait déjà absolument extraordinaire. Non? Savoir que je suis en paix avec le Dieu des cieux, pas à cause de mon service à moi, pas parce que je suis un bon chrétien, ça n'existe pas des bons chrétiens, mais parce que j'ai été gracié. Si la grâce s'arrêtait là, ça serait déjà extraordinaire. J'en aurais assez pour être content tous les jours de ma vie, me préparer pour l'éternité à célébrer Dieu. Mais la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. Parce qu'après nous avoir graciés, après nous avoir pardonnés, il a choisi de faire de nous des sacrificateurs. Il a choisi de faire de nous des descendants de Lévi. Lui a offert le sacrifice parfait, mais nous maintenant on peut offrir des sacrifices de bonne odeur. Notre action de grâce, notre vie qui est donnée pour le royaume de Dieu, pas comme si ça pouvait amener le pardon de mes péchés, mais simplement comme un sacrifice de bonne odeur, d'action de grâce envers Dieu, consacrer mon cœur, ma vie, mon temps, mon énergie. Dans le livre de l'Apocalypse, on lit au chapitre 1, versets 5 et 6, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Est-ce que ces sacrificateurs-là, que nous sommes devenus, sont appelés à trouver des bêtes à sacrifier sur un autel? Il n'y a plus de sacrifice à faire. Le sacrifice parfait a été accompli par Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit « Offrez maintenant vos corps. » Vos vies, votre temps, votre cœur, ce sera un sacrifice raisonnable de votre part, considérant ce que Dieu a donné pour vous, soit son Fils, Jésus-Christ. On a un privilège immense, les amis. Lorsqu'on lit les Écritures, on peut comprendre la parole de Dieu, pas seulement parce qu'on a des enseignements, il y a des prédications, des cours bibliques, parce qu'il y a des gens qui étudient ça toute leur vie et qui ne comprennent jamais rien. Je pourrais vous en présenter souvent, qui vont dire, « Ah oui, OK, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que tu peux adorer en n'importe quel nom. » Ça plaît à Dieu. Tous les noms sont bons. Donc, le privilège qu'on a, c'est non seulement d'étudier les Écritures, mais d'avoir son Esprit. L'Esprit de Christ, notre souverain sacrificateur, qui habite en nous et qui nous aide à comprendre les Écritures lorsque nous les lisons. Qui nous aide à comprendre notre vie lorsqu'on regarde notre vie, nos luttes, nos victoires, nos péchés, nos chutes, qui nous aide à comprendre les relations humaines et comment le péché vient fausser des choses et comment la grâce doit venir rétablir des choses, qui nous aide à comprendre comment bâtir un foyer, comment instruire nos enfants, qui nous permet d'être des guides pour les gens autour de nous, sans prétention. Pas comme si j'étais parfait. J'ai été pardonné par celui qui est parfait. Et c'est notre privilège à nous. C'est notre privilège à nous de prendre ce rôle, les descendants de Lévi, d'être des guides, d'avoir sur nos lèvres la science dans une société confuse, d'avoir sur nos lèvres, dans notre cœur, dans nos pensées, la vérité pour guide. Malachie 2,6, on va terminer avec ça. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. J'aime ma famille, j'aime les gens autour de moi. J'aime cette belle ville de Longueuil. Puis Dieu m'a fait un privilège. Il m'a sauvé. J'ai compris qu'on était tous pécheurs. J'ai compris qu'on est sauvé par grâce, pas par tous les sacrifices que moi je pourrais offrir, mais par le sacrifice de mon souverain sacrificateur, Jésus-Christ qui s'est offert lui-même en sacrifice pour le pardon de mes péchés. J'ai compris que je peux vraiment être en communion avec un Dieu saint. Puis cette communion-là, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas parce que je me dis, oh, Dieu est amour, puis je vais imaginer Dieu comme je veux. Non, je peux connaître le vrai Dieu, pas le définir comme je le voudrais, le connaître tel qu'il s'est fait connaître. Et j'ai ce privilège de pouvoir le faire connaître. Détourner beaucoup d'hommes du péché pour les conduire à Dieu. Et si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as connu ce Dieu-là, c'est ton privilège à toi aussi. Où est-ce qu'est ton cœur? Où est-ce qu'est ton zèle? Où est-ce que tu es actuellement? Tu dis, Yannick, je ne suis pas un bon sacrificateur, je ne suis pas un bon guide, j'ai perdu ma passion. Tout est lourd. Servir Dieu, c'est lourd. Marcher dans la sainteté, c'est lourd. Tout ça, c'est fatigant. Va contempler l'œuvre de Christ à la croix. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure ensemble en prenant le repas du Seigneur. Viens contempler avec nous l'œuvre de Christ à la croix, notre souverain sacrificateur. Saisis la grâce, repens-toi et approprie-toi ce grand privilège d'être un guide pour tes frères. Comme je l'ai dit la semaine dernière, si tu n'es pas entré dans cette alliance de vie et de paix, et ce matin, je t'ai partagé comment tu peux le faire. En croyant en Jésus-Christ. Pas par tes propres efforts, pas en essayant d'offrir toutes sortes de sacrifices dans ta vie puis de te réconcilier toi-même avec Dieu, pas en essayant d'être sa coche puis être quelqu'un de bon. Tous les chrétiens ici vont te le dire, il n'y a pas de bon chrétien. Il y a juste Dieu qui est bon. Christ est mort sur la croix pour qu'on soit pardonné de nos péchés. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, si dans ton cœur l'Esprit de Dieu t'appelle, aujourd'hui, entre dans cette alliance de vie et de paix avec Dieu. Repens-toi, reconnecte tes pécheurs, tu as besoin de l'œuvre de Christ à la croix. Et Dieu va te donner son esprit qui va venir faire sa demeure en toi. Et Dieu va faire de toi un guide pour tes frères. Un guide pour tes frères. On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, on est assemblés ce matin pour t'adorer, pour célébrer, Seigneur, ta gloire, la gloire de ta grâce. Seigneur, lorsque je regarde ces sacrificateurs qui méprisaient ton service, qui méprisaient ton nom, qui ne prenaient pas au sérieux, Seigneur, leur rôle, je me vois éternel. Je me vois tous ces jours où la vie chrétienne, malgré tous ses privilèges, malgré le fait que moi, je peux t'appeler papa, je peux t'appeler père, j'en viens mépriser ces privilèges, Seigneur. Je me reconnais à 100%, Seigneur. Et ce matin, on veut célébrer ta grâce parce que tu es venu, Jésus, t'offrir en sacrifice, toi, le souverain sacrificateur, et tu intercèdes auprès du Père en notre faveur, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, à aimer nos proches, à aimer ton royaume, à aimer ta gloire, à aimer cette ville, Seigneur. À être, Seigneur, des guides humblement pour conduire beaucoup d'hommes à Jésus-Christ. Amen.